Sonar urbain.
Donc moi c'est Yacine Alimour, je suis fondateur de Street Jump 31 et président de Street Jump Lagnac. Je pratique le parcours depuis 2004 et on a créé l'assaut en 2010, l'assaut de Colomiers et Blagnac c'est en 2019.
Je m'appelle Raphaël, j'ai 26 ans, je suis entraîneur et pratiquant de parcours depuis maintenant 13 ans. J'entraîne sur les deux clubs, à Colomiers et à Blagnac.
Et comment vous avez découvert la discipline, le parcours ?
Alors moi j'ai connu le parcours via internet, sur Dailymotion, c'était à l'époque. Avec un ami, on regardait des vidéos de cascadeurs, notamment un qui s'appelait Cyril Raffaelli, qui a fait des films comme Banlieue 13 ou Die Hard 4. Il faisait des acrobaties dans la rue. Et directement j'ai accroché et on est sorti de suite dans le quartier. On s'est entraîné sur des rochers qu'il y avait à sauter partout. Voilà.
J'ai regardé le film Yamakasi qui est sorti en 99 et après en fait en 2003-2004 je commence à sauter partout et ça commençait de là. Avec des potes on a commencé à grimper. Il n'y avait pas YouTube à l'époque, il y avait Dailymotion, c'est ouais. Ça ouais. Ouais, c'était pareil. Donc il y avait une seule vidéo qui traînait sur internet, on l'a
regardé.
Voilà,
tous les jours après les cours.
Comment on appelle une personne qui fait du parcours?
Un traceur.
Est-ce qu'il y a un équipement nécessaire pour s'adonner à ce sport ou
Pas du tout, au contraire, justement, l'atout principal du parcours, c'est qu'on a besoin de rien, une paire de chaussures, un jogging, et on peut aller s'entraîner où on veut, partout dans la rue. C'est vraiment la liberté totale.
C'est quoi les risques de cette discipline?
Alors c'est un sport extrême, il y a des risques. Le risque principal, c'est la blessure, donc entorse de la cheville, entorse du genou.
Et en fait, pour limiter ce risque-là, c'est s'entraîner régulièrement, faire la préparation physique, travailler le mental. Il ne faut pas chercher à faire des gros sauts dès le début, quoi. Il faut aller progressivement.
C'est très progressif. Ouais. C'est un sport extrême où on peut, qui peut avoir cette apparence de danger ou de l'image, l'étiquette du casse-cou. Mais en réalité, c'est pas du tout ça. C'est un sport où on se blesse peu par rapport à d'autres, comme le rugby ou le foot, puisque c'est un sport individuel relativement, donc c'est soi-même contre les obstacles et on fait pas n'importe quoi, on sait ce qu'on fait. Il y a énormément, comme disait Yacine, énormément de temps de préparation derrière, des années. Moi ça fait 13 ans, lui ça fait quoi, 15 ans,
16 ans
que tu pratiques, donc forcément il y a de l'expérience qui se crée et c'est quelque chose qui vient tout doucement. Il n'y a pas tant de prise de risque que ça. Vraiment, personnellement, les peu de fois où je me suis blessé, c'était sur des petits mouvements, des trucs où justement j'étais pas concentré. Dans ma tête, il n'y avait aucun risque. Et c'est là qu'on se blesse en général. Voilà. C'est pas sur les gros sauts, contrairement aux apparences ou aux vidéos qui peuvent circuler sur internet. Les gens qui se blessent, c'est des gens qui font n'importe quoi et qui justement sont. Il y a une part d'inconscience, parfois.
Et en fait, dans le parcours, c'est, même s'il y a le danger, il y a le risque, on peut le maîtriser en fait. C'est-à-dire, c'est pas sport de contact, il n'y a que nous, c'est individuel. Dès qu'on voit le danger, on sait qu'il y a un danger, on essaie de faire attention. Là, par exemple, il a parlé du rugby. Et en fait, les sports de contact, même si vous faites attention, vous faites tacler par un joueur, ben en fait, on se fait mal.
Rien,
donc là, le risque, il n'est pas vraiment maîtrisé. Alors dans le parcours, il y a du risque, mais on peut le maîtriser en fait. On peut faire attention, on peut éviter, comme il a dit, il faut s'entraîner progressivement. Mais voilà, il y a des sports, même si vous faites attention, on se blesse.
C'est jamais sûr à 100%. Hein. Ce qui compte, c'est de diminuer l'aléa en fait. L'aléa, c'est la probabilité de risque. Plus on s'entraîne, plus on pratique, plus on répète un saut. Il y a des sauts, on les a répétés des milliers de fois. Et en fait, plus on s'entraîne dans ce sens, moins on a de chances de se faire mal. C'est tout simple.
Et comment on devient pro dans cette discipline?
Alors, c'est très compliqué. Il y en a peu d'athlètes pro qui vivent vraiment de ça. Ça passe par des partenariats et des sponsors, en fait. Hein. C'est tout simplement les grosses marques, notamment Red Bull, marques de vêtements, etc. Il n'y a que comme ça, en fait, qu'on peut devenir pro.
Pour devenir pro, d'abord, il faut être passionné, en fait. On ne peut pas devenir pro comme ça. Enfin, que ce soit Raph ou moi, on a commencé le parcours par passion. On ne s'est jamais dit un jour on ouvre des clubs ou autre. Donc il faut le faire par passion. Et après, en fait, il faut se donner les moyens pour le rendre pro, quoi. Enfin, on est pro parce qu'en fait on vit de ça, on a ouvert des clubs. Là pareil, pour que le club marche, il faut vraiment il faut qu'il y ait de la qualité, quoi. Il faut bien enseigner les jeunes, il faut bien partager la passion, et comme ça que ça marche. Après, il y a des pros, c'est plus athlètes, parce que nous on est plus dans l'enseignement en fait. Nous on n'est pas des athlètes à faire des compètes. Après, ceux qui font de la compétition, là aujourd'hui, pour être honnête avec vous, en fait, c'est les Instagram, c'est les réseaux sociaux qui les rend pro. Parce que des fois, vous avez vraiment des bons athlètes. Il suffit juste qu'ils ne sont pas trop sur Internet. Et même s'ils sont très très forts, ils ne seront pas mis en avant parce que ils préfèrent rester discrets. Alors des fois, vous avez des athlètes, ils ne sont pas forcément le plus fort. Mais en fait, vous allez les voir en tête d'affiche parce qu'ils ont des millions d'abonnés ou je ne sais pas combien de milliers d'abonnés sur Instagram. Et moi... Voilà, ça c'est ma vision sur les athlètes pros. Pour moi, en fait, athlètes pros, c'est pas forcément ceux qui ont
ils participent à des compétitions qui sont sponsorisées par des grandes marques, en fait. C'est comme ça qu'ils ont des cachets en fonction de leur position, des places qu'ils ont lors de ces compètes. C'est du placement de produits, hein, en fait, tout
simplement. Après, vous avez c'est des compètes aussi qui sont pas très reconnues aussi. Red Bull ou autre, c'est des... Ça reste des compétitions plus pour le spectacle, c'est pas des compétitions qui sont reconnues par par le ministère de sport ou autre, quoi.
C'est plus de l'événementiel, ouais.
Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui a envie de se lancer dans le parcours?
Qui réfléchisse pas, qu'il y aille directement, quoi. Il prend ses chaussures, son jogging, il va s'entraîner, il va commencer progressivement. Tout simplement, il va faire des petits sauts de base et c'est comme ça que ça vient. Hein. On devient assez rapidement accro. Ouais. On commence à avoir des petites sensations, même pas besoin de tourner sur des toits. Hein. On va dans la rue, on trouve deux murs, on s'entraîne, on les passe, ensuite on saute de l'un à l'autre, on varie, enfin il y a tellement de possibilités qu'on s'ennuie pas. C'est vraiment un sport pratique. Ça se fait partout, à n'importe quelle heure, quand tu veux, tu sors. Il n'y a pas besoin de dire ouais, il faut que j'attende le samedi pour le match, etc. Non, tu as envie de pratiquer, tu sors, tu pratiques, c'est comme monsieur tout le monde qui va faire son jogging, c'est la même chose.
Comment vous décririez la scène toulousaine du parcours?
La scène toulousaine, y a de plus en plus de pratiquants, quand même. Quand on a commencé, on devait être une vingtaine. Sur l'échelle toulousaine, une vingtaine. Après, on était des petits groupes de 5-6, ouais, c'est vrai, effectivement. Mais 2-3 assos qui se sont créés, il y a la DD et il y a Street Jump. Ouais, maintenant, on est plus de 300.
Facile. 300 avec, je pense, à Street Jam. Si tu réunis nos deux clubs, on est à plus de 300. Si en fait on rajoute les autres assos, plus ceux qui s'entraînent en libre, à mon avis, on doit être à 500 en tout à Toulouse. Ouais.
C'est un sport qui prend de plus en plus d'ampleur médiatiquement, donc ça accroche les jeunes vraiment de plus en plus. Et à Toulouse, c'est vrai que ça marche bien, ouais, quand même. Ouais. Il y a du monde, c'est bien, c'est cool. Une bonne communauté.
Est-ce que c'est toujours bien accepté ou bien vu quand vous essayez d'investir un lieu pour commencer à pratiquer, à faire des sauts? Ou ça crée de la curiosité ou...
Actuellement, ça va mieux. C'est
en fait, ça dépend des endroits, ça dépend des personnes aussi. Hein. On peut tomber sur une personne vraiment fermée d'esprit. Même si en fait on fait les choses bien, on peut rien faire. Mais des fois, vous avez des personnes qui sont super cool, hein, même si on s'entraîne devant chez eux, ils disent rien. Après, il y a aussi, ça dépend des pratiquants aussi. Vous avez des pratiquants qui vont respecter les lieux. Ils vont s'entraîner. Nous, il y a des spots, ça fait des années, on s'entraîne dessus et on n'a jamais eu de soucis. Mais en fait, aujourd'hui, on commence à avoir des soucis parce que ils viennent, ils s'entraînent avec, vous savez, les petites basses. Ils mettent la musique à fond.
Ils ne respectent pas la musique.
En fait, si vous voulez, ils mettent la musique à fond alors que vous avez, c'est un endroit où il y a des habitations. Oui. Ça crie. L'autre fois, ils ont fait un rassemblement, ils étaient des centaines. Et je comprends en fait pourquoi les gens ils en ont marre, mais après je pense que c'est un travail des traceurs aussi à se faire respecter.
Ouais. C'est les aléas un petit peu de la popularité d'une discipline. À la base, il y a très peu de pratiquants, tous plus ou moins la même philosophie. Ils y adhèrent vraiment par rapport à ça, c'est un truc des valeurs dans lesquelles ils se retrouvent. Et plus la discipline prend de l'ampleur, plus elle est médiatisée sur les réseaux, plus ça va se perdre en fait. Il y a pas mal de pratiquants qui font ça juste pour le fun ou le loisir, pour avoir de la visibilité en fait, parce qu'ils trouvent ça spectaculaire et que ça les met en valeur tout simplement. Et ils ont tendance parfois à s'éloigner des valeurs de base. Mais d'un autre côté, il y a toujours une bonne majorité, je pense, qui a la mentalité, la bonne mentalité de la discipline, quoi, qui veut se faire discrète, qui veut pratiquer tranquillement sans embêter les voisins, sans... Juste faire du sport, vivre de leur passion, voilà.
parler davantage des assos. Comment vous est venue l'idée, tout simplement?
Alors, je vais commencer par l'asso de Colomiers, comme c'est la première et aujourd'hui elle a 11 ans d'existence. Comment en fait ça s'est créé? Tout simplement, on s'entraînait en fait dans la rue. On n'avait pas d'asso, on n'avait rien. Et en fait, à un moment, on a été invité pour s'entraîner dans un gymnase. Et en fait, c'est un gymnase qui a été vandalisé en fait. Et après, on a vu les jeunes qui commençaient à voler du matériel. On a appelé la police. Et en fait, on a eu une récompense de la mairie. En fait, ils nous ont donné un créneau. Donc, ils nous ont donné un créneau 2 heures par semaine. On a commencé comme ça, on a monté une asso. C'était la première fois qu'on donnait des cours. Et on a eu 20-30 adhérents. Et au bout de quelques années, on est monté à 120-180. Et c'est parti de là, en fait. Et l'asso de Blagnac, on est souvent invité dans plein de communes à faire des activités pour les centres de loisirs et autres. Et en fait, là, on était invité à la mairie de Blagnac pour faire des initiations pour des jeunes. Et ils venaient juste, en fait, de construire un complexe sportif tout récent. Et en fait, ils avaient une salle qui était dispo et ils nous ont dit pourquoi pas implanter un club de parcours, quoi. Donc on a monté une asso sur Blagnac, on a monté un club. Et dès la première année, ça a eu du succès, on est arrivé à 100 adhérents la première année.
Voilà. Malheureusement, Covid.
Covid.
Covid, qui vous a un petit peu freiné. On a pas mal de projets pour cette salle. Voilà.
Est-ce que vous pourriez nous définir vos activités, justement? Parce que vous parlez de running.
Parcours.
Est-ce que vous pouvez nous dire la différence?
En fait, le free running, c'est une dérivée du parcours. Pour moi, le parcours, c'est un franchissement d'obstacles. Le but, c'est d'être efficace. En fait, il ne faut pas chercher à faire du freestyle, des saltos ou autre. Et le free running, en fait, c'est le côté freestyle, quoi. C'est le côté où on fait un spectacle, on fait que des saltos. Là, par contre, on n'est que sur des visuels, on n'est pas sur de l'efficacité. Et après, c'est complémentaire. Parmi nos adhérents, il y en a qui viennent pour le parcours, d'autres pour free run, il y en a qui viennent pour les deux. Nous, de toute façon, on propose les deux. On pratique les deux, on propose les deux.
Vous parliez de valeurs tout à l'heure. Quelles sont celles qui vous tiennent à cœur et que vous désirez transmettre au travers de vos assos?
Les valeurs qu'on essaie de transmettre actuellement au sein de nos clubs, c'est vraiment l'idée de discipline, c'est-à-dire de s'entraîner, de respecter son corps, de respecter le matériel, l'environnement qui nous entoure, tout en évoluant et en progressant dans ce contexte-là. Donc ça passe par une bonne préparation physique, une bonne préparation mentale, et aussi pas mal de cohésion entre les adhérents, parce que même si c'est un sport individuel, il y a beaucoup d'entraide, notamment dans les parades.
Le partage.
Voilà, il y a un certain partage, ouais. c'est pas purement individuel, il y a cette notion de communauté qui se crée, il y a des vraies amitiés qui sont créées au sein de notre club, et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est vraiment une bande de potes.
Les adhérents depuis 7-8 ans, quoi. Ils se connaissent depuis 7-8 ans, ils sont venus chez nous, c'était petit, ils ont grandi ensemble, et ils s'entraînent chez nous, et même en dehors de l'entraînement, ils se font des entraînements seuls entre eux, ils se font des soirées, donc nous ça nous fait plaisir de voir ça, et après comme l'a dit Raphaël, il y a une notion de partage. En fait, on veut pas qu'il y ait un esprit de compétitif dans le club, on veut pas en fait qu'il y ait de l'égoïsme, ça veut dire moi je sais faire ça, je vais pas donner la technique à tel. En fait, nous on a instauré une ambiance de partage et on espère que ça reste, parce qu'après, dès que vous mettez une ambiance très, très compétitive, du coup ça crée des groupes, ça veut dire il y en a qui vont se sentir mis à l'écart parce qu'ils sont pas au même niveau des autres, alors que nous dans le groupe vous allez voir des personnes qui font des doubles saltos qui sont super forts, alors qu'ils s'entraînent en même temps avec des débutants, vraiment des débutants, mais ça se passe super bien entre eux, il y a un partage, quoi. Et malheureusement, il y a des sports, il n'y a pas ça. Vous êtes dans les sports, les jeunes ils rentrent, dès qu'ils voient qu'il y a trop de niveau, ils se mettent à l'écart tout seul parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas sa place. Et nous le but en fait, c'est que chaque adhérent il doit se sentir à l'aise dans l'assaut et trouver sa place en fait.
Et qu'il y ait de l'échange et comme ça qu'on progresse aussi, hein. De toute façon, c'est en voyant des gens plus expérimentés que nous qui s'entraînent, ça donne forcément envie, ça donne des idées. Puis, comme disait Yacine, ils s'entendent bien, ils ont des bonnes relations, donc ils se conseillent mutuellement en fait. Il y a des parades aussi, dès qu'il y en a un qui a un petit peu peur d'envoyer un saut, l'autre va se mettre en dessous, lui dire vas-y, je suis là pour toi en cas de chute. Donc c'est des petits trucs comme ça qui font qu'il y a une bonne cohésion quand même au sein des clubs. Il n'y a pas de groupe de niveau, pas de compète, pas de rivalité. Enfin, il y en a toujours un petit peu, mais c'est des trucs qu'on essaie d'éviter, quoi. C'est vraiment, vraiment accessible à tous. C'est ça qu'on veut mettre en avant. Accessible à tous et développement personnel, quoi. C'est une discipline qui... C'est soi-même contre l'obstacle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir tendance à avoir peur de se lancer dans une discipline parce que, justement, ils ont peur du regard des autres, de se mettre dans un groupe de niveau où il n'y a que des débutants, ou entre guillemets, avec les mauvais. Alors que c'est pas du tout comme ça. Tout le monde commence quelque part. Donc, Donc l'idée, c'est de commencer avec des gens qui ont de l'expérience, c'est toujours mieux et ça permet de progresser beaucoup plus vite.
Ce serait quoi le spot idéal en ville pour s'entraîner ou pour donner un cours ?
Ici, Compense Caffarelli.
Compense Caffarelli pour moi. Après ça, ça dépend des pratiquants. Il y en a qui vont dire Paul Sab ou Jolimont.
Ouais, mais là on parle de
là, c'est vrai que pour donner des cours à des jeunes, c'est bien.
Ici, en fait, si vous voulez, il y a de tout et on avait besoin de trop marcher pour se déplacer d'un spot à autre.
C'est regroupé.
Si on fait
ouais.
30 secondes de marche, on faisait des spots partout.
Les spots sont regroupés. Il y a des petits murets. Il y en a pour tous les niveaux. Il y a des grands sauts, des petits sauts et justement sur des endroits assez restreints. Donc ce qui fait qu'on n'est pas obligé de se séparer. Tout le monde peut bouger ensemble au même endroit. C'est assez cool, il y a une bonne ambiance. Ouais. Surtout, on n'est pas dérangé, on dérange pas ou peu. Donc c'est ça qui compte aussi. On n'a pas de soucis avec les riverains. On est soit sur l'espace public, soit sur des endroits où c'est assez vaste. Il n'y a pas forcément d'habitation, c'est plutôt des bureaux. Donc le week-end, il n'y a personne, on est vraiment tranquille.
Alors comment est-ce que vous verriez le futur de cette discipline ? Comment
ça va évoluer ? C'est qu'un jour ça va devenir une discipline olympique comme le skate.
Là c'est déjà le cas
déjà
en fait. Ouais. Donc le parcours il sera aux Jeux Olympiques 2024. Et ils ont même, la fédération de gym, ils ont récupéré un peu le parcours, ils ont créé une équipe de France. Et donc en fait c'est en plein développement. Après juste le seul truc c'est que ça se développe peut-être dans un sens où nous en fait ça nous va pas. Ça a été récupéré par une fédération qui n'a rien à voir avec le parcours, une fédération de gymnastique, et que nous en fait on aurait peut-être aimé que ce soit géré par une fédération de parcours. C'est en plein développement, on le voit. Vous avez des salles de parcours partout maintenant qui s'ouvrent. Sur internet, on voit partout des vidéos qui circulent, publicités, spectacles.
Ça tend vers la compétition. Ouais. Ouais. De toute façon, c'est un sport qui est de plus en plus visible. Donc forcément, il y a de plus en plus d'argent en jeu. Donc ça tend forcément vers la compétition et vers le côté un peu business de la discipline, ce qui déroge un petit peu par rapport aux valeurs de base. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu de communautés qui se forment actuellement. C'est ceux qui prennent les valeurs un petit peu à l'ancienne de la discipline, parcours dans la rue, pour soi et entre amis. Et ceux qui veulent vraiment faire quelque chose d'un métier, et forcément il faut passer par la compète quand on refuse de passer par le milieu associatif. Donc c'est deux voies différentes. Est-ce que les deux sont compatibles d'une certaine mesure? Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est un petit peu encore en débat avec les différents acteurs en France, les différents acteurs associatifs. Il y en a qui voudraient mettre en place des formes de compétition, mais plus basées sur le jeu ou sur le côté démonstratif, plutôt que la performance et le niveau, en fait. Parce que c'est quand même un sport difficilement compatible avec des barèmes comme la gymnastique ou quoi. C'est quand même assez libre hein, dans l'ensemble, donc il n'y a pas forcément des règles prédéfinies. Justement, le principe du parcours, c'est qu'il n'y ait pas de règles, hein, donc c'est compliqué de poser un barème là-dessus. Après voilà, comme disait Yacine, la gym commence à rentrer dans ce jeu-là. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir différentes communautés qui vont se créer tout simplement. Il y a ceux qui vont vouloir rester avec une discipline accessible à tous et pas forcément basée sur la compète. Et il y a ceux qui voudront faire de la perf. Voilà. C'est libre à eux aussi, il n'y a aucun souci. Quoi.
De toute façon, en fait, aujourd'hui, vous avez plein de clubs de gym qui proposent des cours de parcours. Mais par contre, ce qu'on avait dit tout à l'heure, il n'y aura pas ces notions-là, le partage et tout, il n'y aura pas ça. Ça sera toujours cet esprit de compétition. Moi, je vous dis ça parce que j'étais entraîneur de gym aussi, donc je suis diplômé de gym. C'est pas les mêmes valeurs. Donc en fait, à la gym, vous avez vraiment un esprit de compétition. Il faut former des athlètes pour les trophées, donc ce ne sera pas un club de parcours qui se monte dans un club de gym. Ce sera vraiment plus pour proposer une activité un peu fun, mais il n'y aura pas de partage, etc.
Vous en avez parlé un peu tout à l'heure, par rapport aux athlètes sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, dans votre travail d'enseignant, du coup, est-ce que c'est un tremplin ou plutôt un frein ?
Ah non, c'est un outil dont on doit se servir. Je pense qu'on débute un petit peu dans ce domaine, on n'est pas encore complètement au point, mais... Mais il y a plein de façons d'utiliser les réseaux sociaux, donc ça dépend ce qu'on en fait. Je pense que si on commence à faire des vidéos explicatives, on aurait pour projet de faire ça, des petits tutos, des trucs comme ça, ça peut être très bien, pas forcément de la démonstration et montrer les plus gros sauts possibles, il n'y a pas que ça. Donc nous, on s'en sert aussi pour mettre en avant nos élèves. On les filme pendant les cours, on prend des photos, ça leur fait plaisir à eux, ça fait plaisir aux parents, ça c'est dans cette idée de partage aussi. Hein, donc tout le monde peut y trouver son compte, Non, les réseaux, on n'est pas contre, hein, au contraire.
Bon, on a pas mal d'élèves qui...
De toute façon, tous nos élèves utilisent les réseaux, c'est une façon pour nous de nous faire connaître aussi.
Il y en a qui ont réussi à se faire beaucoup d'abonnés.
Ah oui, c'est un tremplin, ça peut être un tremplin, il y a de la visibilité, donc il faut l'utiliser. Après, ça dépend comment on fait ça. Nous, on essaie vraiment de mettre en avant nos adhérents sur les réseaux.
Et du coup, sur quel réseau est-ce que vous êtes, ou est-ce qu'on peut vous suivre, hein?
Instagram, Facebook. Et récemment, on a créé un compte TikTok, mais ça, moi, je refuse de m'occuper de ça.
Il n'est pas actif, hein. Il y a une vidéo de temps en temps, mais...
Mais je pense que ça a vocation à être utilisé, parce que il faut s'adapter, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Après, surtout Instagram et Facebook. On fait des petits montages, on fait des photos, et on partage tout ça. Ouais.
Sous quel nom ?
StreetJump31. Vous pouvez nous suivre.
Pour rejoindre le club, du coup, quelles sont les démarches à suivre ?
Il faut aller sur le site. Enfin, d'abord contacter par téléphone ou par mail. On a des créneaux horaires qui sont classés par tranche d'âge. Et à partir de là, en fait, nous, on envoie un dossier qu'il faudra le remplir, récupérer un certificat médical chez le médecin et venir au premier cours. Et le mieux, en fait, c'est s'inscrire à la rentrée scolaire. C'est pas au lieu d'année.
À partir de septembre, ouais.
En fait, nous, on fonctionne par saison scolaire, septembre-juillet.
C'est possible de nous rejoindre en cours d'année, il n'y a aucun problème, ça dépend en fonction des places disponibles. Actuellement, on en a encore, donc...
On a des créneaux qui sont très demandés, là, par exemple...
Les samedis et mercredis,
les samedis sont très, très demandés, donc souvent, on n'a pas de place.
Scolaires.
Est-ce qu'il y a des prérequis particuliers ?
Non, il n'y a pas de test, rien. Non.
Et c'est accessible à tous les âges ?
Tous les âges, on commence
à partir de 5
ans. 5-6
ans,
ouais. Okay. 5-6 ans, et après, il n'y a pas de limite. Hein. Non, là, les créneaux adultes, c'est le soir, et les jeunes, c'est mercredi après, mais après samedi après. Voilà.
Et c'est quoi le site ?
StreetJump31.fr.
Super, merci beaucoup.
Merci à vous.